Donc, je suis reçu par, dans son nouveau cabinet par Anne Tufinio à Boulogne, Boulogne-Billancourt, bien sûr, près de Paris. Et donc, vous êtes médium, médium pur, médium spirit. Et là, vous venez de m'apprendre justement qu'il existe, c'est un scoop. Il existe des associations qui aident les personnes à faire leur deuil. Comment s'appellent ces associations?
Des associations d'aide au deuil.
D'aide au deuil, voilà. Associations d'aide au deuil qui ne sont pas identiques aux associations qui s'occupent directement du spiritisme, de la parapsychologie,
Ça
comme la
n'a
salle
rien à
psyché.
voir.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qui est la différence?
Qui les différencie, ce sont déjà les organisateurs, parce que les organisateurs sont libres. Vous et moi pouvons demain monter une association sous la loi de 1901, donc une association à but non lucratif, c'est très important de le préciser. La loi de 1901 se réclame libre de toute obédience et de toute croyance, donc elle n'est pas orientée dans une direction spirituelle ou religieuse particulière. On fait venir des gens de façon mensuelle dans une salle à l'issue de laquelle on réunit des conférenciers, des médiums, de façon à aborder des thèmes qui sont chers à tous ceux qui ont perdu un être cher. Ça peut être des conférences autour du pardon, ça m'arrive d'en donner par exemple, ou bien comment percevoir les signes de l'au-delà également pour tous ceux qui perçoivent des signes de leurs proches et qui ont besoin de réponses par rapport à leur façon de les capter, de les interpréter. Et très souvent, les conférences sont suivies d'une médiumnité publique.
Voilà.
Et là, nous intervenons. Enfin, moi, il m'arrive très souvent de faire et la conférence et la médiumnité, puisque mon ancien travail a fait que je peux être à même de proposer les deux. Et voilà, les personnes nous déposent une photo ou un objet de leur proche disparu et nous leur délivrons des messages à l'issue de cette médiumnité publique.
Excusez-moi, mais ça me semble quand même assez proche de ce qui se fait dans les associations médiumniques,
Non, parce
etc.
que très
Je vois pas très bien,
souvent,
parce que c'est comme ça, il y a aussi la conférence suivie de
oui,
l'expérience.
sauf que pour être à la salle psyché depuis plus de 4 ans maintenant, vous avez une large partie, un public qui est en quête de spiritualité, qui est en quête, vous avez très souvent des praticiens, des magnétiseurs, des gens qui sont déjà en train
Ah oui, d'accord.
d'apprendre quelque chose de la
Ah oui.
spiritualité, et ces salles-là proposent des stages, des séminaires,
Ah oui, il y a un côté
comment dire,
professionnel.
il y a un volet très, très
Ah oui.
formateur que ne proposent pas du tout les
Ah, je
associations d'aide au
n'avais
deuil.
pas compris ça,
Moi, je
effectivement.
remarque que
Oui.
depuis 2-3 ans par rapport à la salle psyché, il y a particulièrement un bon tiers de la salle qui n'a pas été confronté forcément à un deuil ou
Même
quelque
pas.
chose de
Oui.
douloureux,
Oui.
mais qui est en vraie recherche par rapport au thème proposé, l'astrologie, la réincarnation, etc., etc., les sujets sont variés, et qui viennent picorer dans ces sujets des choses pour parfaire leur connaissance. Ce qui n'est pas en général du tout le cas des associations d'aide au deuil, où moi je suis confrontée à un public qui a perdu de façon très proche un être cher, un enfant, un parent, et qui cherche des réponses. Ils sont parfois tout à fait novices quant à la médiumnité, voire novices par rapport à la spiritualité.
Donc vous avez fait une étude du public de la salle psyché.
Ben oui, parce
Mais
que
moi,
j'y
je...
vais tous les mois,
Non, mais moi,
Philippe.
j'avais pas fait attention à ça, effectivement.
C'est un public très différent.
Ah oui.
Je m'en aperçois évidemment puisque leurs demandes, leurs requêtes sont très différentes
Oui.
de celles auxquelles je suis confrontée en province. On n'aborde pas les choses de la même façon et mes
Oui, oui,
conférences sont beaucoup plus
oui.
poussées aussi parce que j'ai déjà un public d'érudits, entre guillemets, qui vient
Oui.
vraiment, vraiment essayer de parfaire ses connaissances. C'est pas du tout le même, la même ambiance,
D'accord,
on peut dire.
oui, c'est pas la même prise en charge,
Non.
là. D'accord. Bon, bah, effectivement, voyez-vous, on en apprend tous les jours. Effectivement, vous êtes une vraie sociologue de ce milieu.
Je ne sais pas, mais en tout cas, l'expérience a fait que je peux aujourd'hui capter l'émotion d'une salle et puis ses attentes aussi, bien sûr.
Cela dit, votre clientèle ne se réduit pas à cette demande.
Non, elle ne se réduit pas à cela, mais c'est grâce à ces associations et au fait d'avoir réellement un contact particulier avec les défunts que j'ai vraiment choisi cette mission, ce travail.
Ah d'accord, donc finalement, c'est quand même le cœur de votre métier, quelque part.
Oui, c'est vraiment le cœur de
votre métier. Motivation.
Oui.
Et après, vous ouvrez un peu plus
vers
des aides plus générales.
Absolument. Mais je suis venue à la médiumnité grâce aux défunts.
D'accord. Mais ça aussi, c'est original, effectivement. Et alors, bon, cette médiumnité, vous en avez pris conscience d'une manière ou d'une autre.
Voilà. J'ai été, comme beaucoup de personnes, confrontées au deuil. Moi, je suis relativement tôt parce que je n'avais que 22 ans quand j'ai perdu ma mère. C'était donc en 2004. Et ça a été quelque chose auquel on m'avait déjà averti et préparé. Mais vous savez très bien qu'on n'est jamais préparé à un deuil, surtout quand il s'agit de quelqu'un aussi proche. J'avais déjà en moi, depuis de nombreuses années, voire enfant, beaucoup de perceptions médiumniques, auditives, visuelles, mais que je ne m'étais pas du tout avouée, ni... moi, je viens d'un univers absolument cartésien, pragmatique et athée, donc il était hors de question d'aborder ces sujets-là chez moi, donc je les ai refoulés, pour utiliser un terme très freudien, jusqu'à ce que ce drame les fasse d'autant plus ressurgir et puis me faire me poser de réelles questions quant à ma voix et à ma mission.
Ah oui, carrément, ça, c'est devenu une inspiration pour votre travail, en fait.
Vous savez, à un moment donné, vous avez une épine dans le pied, vous marchez tant bien que mal avec, et vous n'en faites pas cas. Et puis un jour, soit vous considérez la chose et vous la développez, vous en faites quelque chose, soit vous coupez tout et vous poursuivez votre chemin. Pour moi, c'était devenu quelque chose qui faisait partie intégrante de ma vie, de ce que j'étais devenue, donc je ne pouvais pas lui tourner le dos.
Est-ce qu'on peut dire que ça a été votre premier, que vous n'avez jamais envisagé de faire un autre boulot que celui-là?
Mais je faisais quelque chose d'autre
avant. Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord.
J'étais professeure de lettres modernes.
C'est vrai.
Donc oui.
Ah oui, d'accord.
J'ai un parcours très académique,
oui.
Finalement. C'est là où mon parcours est assez atypique par rapport à certains médiums ou à certains tarologues dont on se file, pardonnez-moi, la carrière de père en fils, de mère en fille. Alors moi, pas du tout. Je suis venue sur Paris pour y poursuivre des études littéraires, donc j'ai fait une hippocagne.
C'est un peu comme Elisabeth Tessier.
Et ben, je ne sais pas.
Parce qu'Elisabeth Tessier, elle s'est présentée à l'agrégation, je crois.
Oui, enfin, elle avait quelques années plus que moi au moment où elle a tenté l'agrégation.
Ah bon, je ne parle pas de la thèse de doctorat, je parle de l'agrégation.
Elle était enseignante,
non, mais elle a... Non, je ne parle pas de la période où elle a passé sa thèse de doctorat. Je parle de... Elle a fait des études supérieures de lettres... quand elle était jeune.
D'accord.
Oui.
Nous avons embrassé la même carrière.
D'ailleurs, vous avez un peu le même profil, c'est pas dire. Enfin, vous êtes.
Je sais pas.
Non, mais sur certains. Enfin, disons que bon, c'est intéressant parce qu'il fallait classer les gens. Il y aurait effectivement. Donc, vous avez quitté plus ou moins cette carrière.
Mais plus que moins, parce que j'ai décidé de tout abandonner. Ça n'a pas été un choix, je vous dis ça, d'un air détendu, relax aujourd'hui, en disant j'ai tourné le dos à l'enseignement, à un travail absolument pragmatique, cartésien.
Mais on peut dire que d'une certaine façon, vos études littéraires vous ont mis en contact avec des personnages du passé, des écrivains.
Absolument. Et grâce à eux, je me suis déjà intéressée à la mort, bien sûr,
oui.
Et à l'après. Et pour tout vous dire, on parle de parcours de synchronicité dans une vie. Vous savez, des choses qui vous ramènent immanquablement à ce que vous devez faire plus tard. Mon sujet, donc j'étais à la Sorbonne, hein, à Paris 4, et mon sujet de licence, donc de lettres modernes, était La fin de Satan, Victor Hugo. Donc j'ai dû, à cette occasion, élire la Bible, parce que je fais partie d'un univers athée, donc je ne l'avais jamais lu. Il a fallu que je me plonge donc déjà déjà dans une certaine religiosité et spiritualité. Ça, c'était pour la licence de lettres. Et j'ai dû choisir, donc, comme vous savez, mon sujet de maîtrise. Il faut bien s'y prendre parce qu'on va travailler un an dessus. Donc, il vaut mieux peaufiner le sujet que l'on va proposer. Et moi, j'ai proposé un thème qui a fait bondir mes proches et qui m'a fait paraître un peu pour extraterrestre du coin. J'ai choisi la mort dans les romans du tournant du siècle. Voilà, donc vous voyez, j'avais déjà inconsciemment cette recherche.
Absolument. Et puis Victor Hugo s'intéressait beaucoup au spiritisme par ailleurs.
Victor Hugo était un grand médium. Hein.
Oui, voilà. Mais je veux dire par là aussi que vous pourriez, d'ailleurs j'évoquais la possibilité de faire des recherches universitaire en s'appuyant sur la médiumnité, vous pourriez éventuellement essayer de contacter à des auteurs du 19e ou du 18e siècle et voir un peu s'ils ne pourraient pas vous apporter. Je pense que vous pourriez même faire un jour un livre là-dessus, communication avec des grands écrivains français des siècles passés.
Vous savez, le sujet a été un peu éculé et un peu malmené, c'est-à-dire qu'on en a fait beaucoup de sensationnel autour de tout ça.
Oui, il y a Gaël Didier qui a écrit là-dessus, je crois.
Ouais. Voilà. J'aborde les choses de façon très universitaire et très académique, finalement, même quand je prépare une conférence, parce que je suis en train d'en préparer une pour ma venue à Vichy. On fait des recherches, on est vraiment sur un travail de peaufinage et de recherche. Moi, ça me hérisse un peu le poil quand j'entends, tiens, hier, Jeanne d'Arc m'a parlé. Ça m'agace un peu. Si je peux avoir l'honneur de rentrer en contact avec Baudelaire, par exemple, parce que ce serait quand même mon premier, vraiment celui qui m'a porté pendant toutes mes études.
Vous avez s'intéressé à ces questions aussi.
Mais c'était un grand torturé par rapport à l'au-delà. Et de toute façon, toute la période romantique du 19e siècle porte là-dessus.
Donc, non, ça pourrait être, surtout si vous faites ça de manière assez pointue, ça pourrait même être intéressé les gens dans ce domaine-là, les chercheurs.
Vous savez, il faut jouer des coudes et c'est encore beaucoup, beaucoup de gens très frileux par rapport à la médiumnité. Il n'est pas facile d'être crédible et sérieux dans ce domaine. C'est ce que j'essaye de faire réellement à travers le travail.
Mais justement, imaginez que vous mettiez en contact avec Baudelaire, avec Rimbaud, avec je ne sais quel, avec Lautréamont, avec Nerval. Vous pourriez peut-être trouver des choses, des pistes nouvelles, et là les gens diraient ah bah oui, elle a trouvé ça. Et même si vous ne disiez pas directement que vous avez été aidé par la médiumnité, vos travaux vous inspireraient des pistes qui seraient appréciées.
Ça serait
vous pourriez faire un thèse de doctorat sur un de ces auteurs, et puis même si vous ne dites pas que vous allez être médium, vous pouvez quand même profiter des pistes et et aller voir là où on n'a pas pensé aller, ou poser des questions qu'on ne s'est pas posées.
Vous me renvoyez sur les bancs de l'école, finalement.
vous pourriez faire d'ici une dizaine d'années une thèse de doctorat en littérature moderne.
Ah, vous savez, quand on a étudié les lettres modernes, la lecture, ça fait partie de son quotidien. Donc c'est quelque chose qui...
Est-ce que vous auriez des questions à poser, par exemple, justement, à un de ces auteurs sur des points qui ne sont pas clairs dans leur vie
C'est
par exemple, Rimbaud, pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait? Je ne sais pas, enfin, il y a des tas de questions qu'on peut leur poser.
Oui, absolument.
Mais vous pourriez le faire.
Le génie créatif, parce que je pense que la médiumnité leur a eux-mêmes inspiré beaucoup de
ça aussi, créations. Ça aussi, oui.
Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que j'irai aussi demander j'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi. Ça va revenir. Voilà, je l'ai en tête. Je vais lui demander comment il était mort. Je vais retrouver cet auteur. Ça vient de partir.
Oui. Mais c'est vrai que vous pourriez. Moi, je pourrais vous encourager. Moi, je l'ai fait avec notamment une de vos collègues qui s'appelle Geneviève Bénard. On a fait un grand nombre de séances comme ça. Il faut connaître le sujet, de préférence.
Il
faut connaître le sujet et on va voir le médium. Alors, ce n'est pas forcément vous qui seriez le médium, voyez-vous. Parce qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut être à la fois, on peut travailler avec un. Vous connaissez le sujet, vous êtes médium aussi, mais vous pouvez aussi demander à un médium d'intervenir et de vous mettre en contact avec l'entité ou l'anal akashique et de dialoguer avec cette entité qui voit, en lui posant des questions pointues. Sur tel et tel point de son travail, de son œuvre, de sa vie, Et
Mais il y a plein de choses à faire.
mais je ne sais pas si vous, est-ce que vous auriez le courage comme ça de...
Ce n'est pas une histoire de courage, c'est une histoire de temps. Parce que comme vous l'avez compris, entre mes déplacements en province, etc., je ne m'ennuie guère, mais c'est quelque chose. Déjà, l'écriture d'un livre, vous l'avez bien compris, quand on a enseigné, quand on lit les autres, on a vertu un jour à écrire pour soi. Et parce que mon parcours est atypique, et j'ai toujours pensé que tant qu'on a des choses nouvelles à témoigner, il faut le faire. Ça, c'est évidemment dans un coin de ma tête. Et comme vous le dites très bien, parce que je suis un peu perfectionniste, je veux trouver le bon sujet, je veux trouver quelque chose qui puisse apporter au lecteur.
Voilà.
Moi, j'ai pas envie de faire les miennes biographies.
Non, non, non.
Dieu, ça m'intéresse pas du tout.
D'accord.
De raconter ma vie aux gens, tant mieux si pendant les conférences, je peux raconter mes expériences personnelles, tant mieux.
Ah.
Mais je pense qu'il y a autre chose à écrire
oui.
là-dessus.
Alors, on va passer à. Alors, je vois quand même. Alors, vous disiez que vous utilisez les cartes, mais de façon, disons, marginale, incidente,
oui.
initiale.
Oui. Et en aucun cas avec une méthode de tirage précise, etc. Je ne sais pas faire ça. Enfin, c'est pas que je ne sais pas faire, mais ça serait en totale contradiction
voilà.
avec ma façon
oui.
de percevoir, de canaliser les choses. Voilà.
Chanel, est-ce que vous faites tirer les cartes par les gens ou est-ce que vous les tirez vous-même?
Ah non, les gens ne touchent pas au
voilà.
oracle.
Non, c'est bien parce que je crois que c'est une très bonne déontologie.
Oui. Personne ne touche à mon oracle.
Parce que je crois qu'un médium qui dit tirer les cartes, déjà oui. il suppose que le client est capable de tirer les cartes. Enfin, je veux dire, il est capable de trouver les bonnes cartes.
Mais moi, c'est ce que j'explique à mes consultants qui parfois sont un peu frustrés de ne pas toucher mon oracle.
Oui.
Je leur dis, mais vous arrivez avec votre énergie, votre émotion, votre subjectivité par rapport à la réponse. Or, vous demandez quelque chose, une réponse tout à fait neutre par rapport à vos attentes. C'est-à-dire que vous avez plutôt envie que la réponse soit positive ou à l'inverse, vous avez plutôt envie que
oui.
la réponse soit négative. Donc, ça n'est pas à vous de participer à la réponse. Je vais vous la donner et médium veut bien dire moyen, canal, outil, c'est-à-dire qu'on y met une totale neutralité, donc
oui.
pas d'émotionnel dans la réponse.
Oui. Et à ce propos, est-ce que vous faites de la communication, de la consultation par téléphone?
Oui, je fais ça également, tout à fait.
Oui.
Ça me permet de suivre les gens que j'ai rencontrés en province et qui
C'est
souhaitent
vrai.
Me consulter.
Oui. Et puis là, évidemment, il n'y a pas le choix, on est obligé de tirer soi-même le médium doit tirer lui-même les cartes.
Oui, mais c'est très rare quand j'utilise mon oracle.
Ah oui, d'accord. En fin de compte,
oui.
c'est vraiment... Donc finalement, quand vous êtes en face de quelqu'un...
Je prends son prénom, sa date de naissance, et déjà, j'ai entre guillemets sa carte d'identité, c'est-à-dire que j'ai déjà une histoire, un sujet, un parcours, et je développe avec la personne. Elle peut très souvent aussi m'envoyer des photos de ses défunts, parce qu'ils m'aident aussi beaucoup dans mes perceptions.
Oui, oui.
Voilà, maintenant, je n'ai pas besoin même
non.
de voir les gens.
Oui.
Ça peut être sympathique de se voir et de se rencontrer dans le cadre de ce cabinet, mais pour le reste, je n'ai pas besoin
non.
De les voir. Non.
Non. Non. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de vous poser même... Alors, notre question, est-ce qu'ils doivent vous poser des questions?
Oui, mais quand j'ai, pour ma part, terminé de leur dire ce que
voilà,
j'ai à dire.
C'est ça.
C'est-à-dire que je ne veux rien savoir
oui,
pour ne pas me laisser embarquer
oui,
vous voyez
oui,
ce que je veux
oui,
dire,
oui.
Dans un chemin qui me ferait oublier d'ailleurs l'essentiel de ce que je dois moi leur dire, parce que des gens vont arriver pour des choses professionnelles, affectives, etc. Or, dès qu'ils vont arriver, je vais percevoir quelque chose autour de leur santé ou quelque chose... Je ne sais pas.
Que ils pensent pas.
Et que
oui.
moi, je
oui.
dois vraiment délivrer
voilà,
dans
ça.
L'instant.
Oui.
Et si je me laisse embarquer avec
oui.
leur demande, je vais oublier ça.
Oui.
Et c'est pas le but. Voilà.
Oui, absolument.
Après qu'ils me posent toutes les questions qu'on n'a peut-être pas abordées ensemble, bien évidemment, mais c'est je dirige les choses.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que en effet, d'abord en plus les questions, les médiums qui travaillent avec des questions, avec des cartes. Bon, c'est déjà pas très bien parti, effectivement, parce que...
Ben, on segmente et on fragmente beaucoup, si
oui,
on peut pas,
et puis on se demande s'ils sont vraiment médiums, à la limite, hein, parce que ils vont lire les cartes, ils vont lire ce qui est marqué dans les cartes, ils vont broder sur les questions qu'on leur pose, enfin bon, on veut dire, c'est...
Oui, je critique pas cette façon de faire, parce qu'il y a des gens qui savent très... qui ont besoin d'un support visuel pour mieux s'en échapper. C'est une façon, vous savez, comme quand on utilise le la ou un triangle en musique pour pouvoir ensuite accorder ses violons, comme on dit. Peut-être que ces gens-là ont besoin
peut-être,
de... Oui. Moi, je ne crache pas dans la soupe. J'ai commencé grâce à ça. Le tarot, les oracles,
quand
j'étais adolescente, m'ont permis déjà de comprendre certaines choses. Mais ce que j'ai appris grâce aux belles rencontres que j'ai faites dans ma vie, j'ai appris à très vite...
Alors, à ce sujet, à votre avis, comment est-ce qu'ils sont réalisés, ces tarots?
Alors, je vais parler de celui-là parce qu'il me tient à cœur, et puis parce que celui qui l'a créé est un ami, donc je vais en parler. Il s'agit de Gérard Barbier, voilà, il a créé l'Oracle G. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a eu un véritable succès commercial, on va dire, sur la vente de cet oracle. Et c'est quelqu'un qui refuse tout ce qui a trait aux médias, à la célébrité, etc. Il vit un peu reclus dans sa province et c'est quelqu'un qui est d'une...
Et alors, à votre avis, comment est-ce qu'il a fait son travail?
Et là, je vais demander, parce que vous savez, je fais beaucoup parfois d'ateliers sur cet oracle. Les gens me demandent comment s'en servir, comment on peut l'interpréter. Donc, il m'arrive de faire des ateliers là-dessus. Et je disais donc à Gérard, mais Gérard, dis-moi quelque chose. Comment t'es venu cet oracle? Qu'est-ce que je peux en dire aux gens? Je veux, comme un journaliste aller à la source et te citer. Hein, c'est pas moi qui l'ai fait, cet oracle. Et il est très évasif là-dessus. Il dit que cet oracle, il l'a dessiné, on lui a inspiré les choses et qu'il n'y a rien à en dire de plus que c'est un outil pour prendre confiance en soi, voilà, et en son don médiumnique. Et j'ai beaucoup aimé. Les cartes sont très, pardon Gérard, mais très simples. Un enfant aurait pu faire ses dessins, on est d'accord. Donc il n'y a rien. On ne peut pas broder autour de, comme un tarot,
oui.
Vous voyez, un dessin.
Il n'y a pas un aspect événementiel précis.
Pas du tout. Et c'est ce qui est très bien pour nous, les médiums, c'est qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans la carte. La carte, c'est plutôt justement un catalyseur.
Ce n'est pas des cartes positives ou négatives.
Il n'y en a pas, voilà. Le dessin peut paraître négatif.
Parce que beaucoup... Ah oui, le dessin quand même est...
Un dessin peut être négatif, oui. Mais je vais prendre la célèbre carte qu'on retrouve à peu près partout dans les tarots, l'arcane sans nom, par exemple, dans le tarot de Marseille, qui est un squelette avec une faux, donc d'apparence, c'est une carte très sympathique, on n'a pas envie de la tirer, sauf que c'est aussi, dans sa signification profonde, les grandes transformations, c'est ce qu'on va laisser derrière soi. Il n'y a pas forcément qu'une mort, c'est aussi une grande période de transformation profonde, donc elle n'a pas forcément une signification négative dans le contexte, bien évidemment. Il faut savoir sortir des clichés que peuvent...
Okay, on trouve cette carte de la mort dans ces cartes.
On la trouve, tout à fait. Elle est différemment proposée, mais voilà, elle marque une fin et un départ.
Oui, tout à fait, oui. Et puis alors, il y a la question, bon, enfin, vous disiez vous-même que vous n'êtes plus dans la... Ça vous intéresse pas tellement d'interpréter les cartes, finalement, de toute façon. Oui, donc c'est pas votre... Ça, vous avez
non,
fait
c'est
ça...
Un,
ça
a... C'est un support qui m'a apporté beaucoup, que je fais encore avec mes consultants qui le désirent, parce que... Et puis pour les consultants que je connais très bien aussi, parce qu'à un moment donné, sur une question, ça permet aussi d'avoir un certain recul sur les choses. C'est pour ça qu'eux-mêmes ne touchent pas à mes cartes. On garde vraiment la neutralité du message au moment où il arrive. C'est un support.
Et comment ça se fait justement que vous ayez réussi à décrocher par rapport aux cartes, si on peut dire?
Alors j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur exceptionnel qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui était un grand médium. Et je l'ai rencontré donc à un moment de ma vie où j'étais en plein questionnement, je venais de perdre ma mère, je n'arrivais plus à enseigner parce que je sentais que c'était plus ma voie et je ne savais pas quoi faire de mon bagage médiumnique, entre guillemets. Et je suis allée voir ce monsieur, voilà, qui s'appelait Michel Rigolte. Et c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai compris déjà que j'ai eu mon top départ à moi pour pouvoir commencer et me rassurer quant à mon faculté, talent, don, je ne sais pas comment on dit. Et puis aussi que je n'avais pas besoin de support, que ma médiumnité ne supposait pas voilà, qu'on s'appuie de cartes, d'un pendule, etc.
Alors, c'est décédé, il y a deux enjeux dans le cas des communications qui sont décédées. D'une part, de voir qu'il y a un contact possible avec eux, Deuxièmement, il y a même trois enjeux. Deuxièmement, de savoir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et troisièmement, ils peuvent aussi nous donner des conseils.
Avant tout.
Oui.
Avant toute chose.
Mais c'est peut-être pas la première motivation de ces associations dont vous parlez.
Si, parce que la première des motivations, c'est ce que l'on appelle apporter des preuves de survivance.
Oui, voilà. C'est ça.
Avant
ça,
tout, c'est se dire, les questions peuvent sembler basiques, mais elles ne le sont pas du tout. Est-ce que mon proche disparu est en paix?
Oui.
Est-ce qu'il a fait son chemin de lumière? Est-ce qu'il va bien? Et qu'est-ce qu'il a à me dire?
Ah.
Souvent, ce sont les questions.
Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire me concernant?
Pas forcément. Ça peut être pour ma vie aujourd'hui ou dans les conflits qui nous ont concernés
ah oui.
De notre vivant.
Oui.
C'est parce que vous savez, on ne part pas toujours en paix avec ses proches. On peut partir dans la colère, on
oui.
peut partir dans le chagrin, on peut partir dans les non-dits beaucoup. Vous le savez, les hommes ne sont pas toujours très bavards. Un père et un fils se disent trop rarement « je t'aime ». Voilà, on n'a pas toujours le temps de se dire à quel point on s'aime. Et moi, je retrouve des hommes en salle qui vivent avec ce chagrin trop pesant de ne pas avoir pu tout dire à ceux qu'ils ont aimés et qui sont partis trop tôt.
Et là, ils peuvent le dire en quelque sorte. On parle. Est-ce qu'on les fait parler?
Non, c'est moi qui parle. Puis vous savez, quand vous êtes entre guillemets pris comme ça au milieu de la foule en salle, déjà ça suscite beaucoup d'émotions. Vous vous levez, vous savez même plus, souvent ils ne savent même plus comment ils s'appellent, les pauvres, ils sont très très émotionnés. Donc c'est à moi vraiment de leur donner des messages, de les délivrer. Et puis ensuite ils viennent me voir, et parfois ils peuvent infirmer, confirmer, poser une question, mais très souvent le message.
Mais de toute façon, le travail en salle n'est pas le même que le travail en cabinet, en tête à tête.
Pas du tout.
Je suppose. Parce qu'en salle, déjà, je ne sais pas, il faut déjà savoir pour qui est le message.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est en sortant la carte
oui.
ou que vous dites
pas
ça
la, carte, c'est,
la la photo, je veux dire, l'objet. Vous dites voilà, c'est
voilà.
ça, l'objet, excusez-moi,
voilà.
l'objet, ou est-ce que c'est un prénom
qui... Ça peut être un prénom, ça peut être. Je peux déjà recevoir un message en clair-audience de quelqu'un qui souhaite parler à quelqu'un dans la salle. Je peux déjà avoir un message concernant une photo. Ça arrive.
Alors, cette photo, excusez-moi d'entrer dans les arcanes de votre travail, qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré tout d'un coup par cette photo et vous savez que c'est cette photo qui est concernée?
Parce qu'il y a un dialogue qui s'établit déjà. Voilà.
Mais la photo, elle apparaît en surbrillance, elle apparaît en...
Elle
est focalisée.
L'énergie de la photo sort de la photo.
Ah oui.
Voilà. Il y a déjà un champ d'énergie qui
presque
sort de la photo.
Visuellement, presque.
Pratiquement visuellement.
Oui, c'est
oui.
ça.
Ouais, pratiquement.
Oui.
Et voir aussi en salle, je peux voir...
Vous avez aussi des gens sur qui l'énergie focalise?
Mais j'ai même des entités derrière les gens. C'est-à-dire il m'arrive en salle d'avoir une dame et tout d'un coup, il y a son papa qui est derrière elle.
Oui.
Et je lui notifie qu'il y a un homme et je le décris. J'essaie
oui.
de décrire au mieux par rapport à
oui,
son
oui.
apparence, à quelque chose de particulier qui peut aider à l'identifier. Oui. Bien sûr. Et donc chaque salle est différente parce que chaque façon de se manifester va l'être aussi. C'est aussi ça qui est magique.
Mais alors, il faut vous mettre dans un certain état pour capter ce niveau vibratoire ou est-ce que vous êtes en permanence?
On va dire que je me concentre quelque peu. Maintenant, le fait d'être dans des salles différentes, des lieux différents, il faut savoir, entre guillemets, se centrer et se ramasser très vite parce que on doit s'adapter au lieu, au bruit des gens, etc. On apprend à s'intérioriser. Voilà.
Oui.
J'ai envie de dire qu'on apprend à s'intérioriser comme quand on est dans une grande bibliothèque et qu'on va aller y travailler une heure sur un livre. À un moment donné, on va faire fi de tout ce qui se passe autour de nous
oui.
et on va se centrer sur son travail. C'est exactement ma façon de faire quand j'arrive en salle. Voilà.
On ne peut pas dire que vous mettez dans un état particulier.
Non, ni en transe, ni... On va dire qu'on se
mais
met
c'est
forcément
vous, mais c'est
en
vous...
état modifié de conscience.
Oui,
et à un
voilà.
moment donné, oui, les bruits de la salle vont s'estomper.
C'est
et...
un peu, pour prendre un exemple un peu trivial, comme quelqu'un qui dirait je vais m'endormir, je vais dormir, donc je me mets au lit et je
oui.
me prépare à... Après, dans un autre état de conscience.
C'est ça, c'est à peu près ça.
Sauf qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir, mais il y a des gens qui arrivent à le faire facilement.
C'est ça, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, mais je n'ai pas beaucoup de mal à être dans cet état modifié de conscience.
À vous plonger dans cet état.
C'est ça.
Et d'accord, effectivement. Donc, si vous n'avez pas décidé de vous plonger dans cet état, vous n'y êtes pas. À moins que parfois, tout d'un coup, cet état se manifeste sans que vous l'ayez voulu, en quelque
oui,
sorte.
Oui, ça fait beaucoup rire mes proches, et puis dans quelques émissions de radio, etc. Je le fais très souvent maintenant, on me pose ce genre de questions. J'ai des fulgurances, vous savez, le matin, quand on a la tête dans le café et qu'on sort des vapeurs du sommeil, etc. Moi, à ce moment-là, j'ai tout un tas d'informations le matin qui arrivent. Je vais être, vous savez, sous la douche, et vous êtes dans ce moment un peu où vous faites bercer par le bruit de l'eau, etc. Et alors là, je peux avoir tout un tas d'informations.
Et elles vous les dotent, elles vous servent à quelque chose,
là. Parfois, elles
vous,
sont très
vous les mémorisez?
Oui, je les mémorise, elles peuvent concerner un consultant qui va venir,
ah, oui.
Elles peuvent consulter une information pour la journée. Voilà, ça arrive de façon tout à fait impromptue. Ce sont des moments comme ça volés et très riches, du coup, que j'aime beaucoup.
Et qui peuvent vous servir pendant la journée, quelque part.
Oui, oui, je peux tirer du sommeil un matin et avoir un message en clair.
Et après, vous dites, vous recevez la personne, vous dites, ça doit être pour elle.
Ah, mais je sais déjà que je vais avoir quelque chose à dire. Il m'arrive des fois de noter en amont les messages que j'ai reçus. Oui, tout à fait.
Et alors, en ce qui concerne. Alors, donc, bon, parlons maintenant un peu du. La connaissance du futur, c'est pas. Est-ce que le grand mystère, c'est comment peut-on savoir des choses qui n'ont pas encore eu lieu?
Parce que le temps n'existe pas.
Ouais.
Ça
mais ça ne complète. C'est pas totalement satisfaisant.
J'ai bien compris. Parce que nous sommes en trois dimensions. Nous vivons dans le passé, le présent, le futur. Ici-haut, c'est quelque chose de tout à fait inexistant et subjectif. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que l'être humain a beaucoup, beaucoup de mal. Alors, mettons-nous philosophiquement à y penser. Voilà, nous sommes régis par une temporalité qui n'est pas du tout la leur. Très souvent, je dis que 10 années... 10 années ici-bas, c'est quelques fractions de seconde ici-haut. Donc, les informations qu'ils nous donnent, vous savez, c'est comme si elles n'étaient pas les unes à côté des autres, mais les unes sur les autres. En fait, elles font partie de notre destinée. Tout est déjà inscrit. Donc, il n'y a pas de futur. Vous voyez ce que je veux dire. Nos défunts viennent nous révéler juste notre package, notre projet de vie, notre mission de vie, tout ce qui jalonne notre incarnation.
Bon, alors, si on peut un peu, on va peut-être un petit peu creuser cette question, quelques instants, pour qu'on ne reste pas sur sa fin. Mais peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses non plus à ces questions.
J'adorerais, mais je ne pense pas.
Est-ce que ça veut dire que, premièrement, est-ce que ça veut dire que ce que nous allons vivre est déjà inscrit?
Déterminisme.
Déterminisme ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que déjà. Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Est-ce que.
Je vais vous donner la mienne.
Oui, voilà. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on est rendu avec
mon
vous.
Mon humble interprétation et ma croyance, en tout cas.
Voilà.
Je pense que nous sommes les grands Spielberg de notre vie, c'est certain, mais que le scénario, nous l'écrivons avant d'arriver. Voilà, nous l'écrivons à l'aide de nos guides, à l'aide de notre groupe d'âmes, grâce auquel nous travaillons dans nos différentes incarnations. Il y a deux courants de pensée différents, et je vous avoue que là, je n'ai pas la réponse. Il y a le courant occidental qui suggère que l'âme, dans une totale liberté d'action, décide complètement de son incarnation, de ce qu'elle va vivre, des épreuves qu'elle va subir. Et puis il y a le courant oriental, beaucoup plus bouddhiste et beaucoup plus, comment vous dire, un peu plus austère, qui parle plutôt d'une orientation très forte que nos guides nous donnent quant à notre incarnation, aux épreuves que nous allons devoir subir, afin évidemment de purifier notre âme.
Le karma.
Exactement, exactement. Je préférerais me situer dans la catégorie de l'Occident qui consiste à dire que l'âme décide elle-même, pleine d'amour, de se réincarner et de vivre beaucoup, beaucoup de malheur. Voilà, on se heurte tous dans les courants de pensée.
On se fixe des épreuves à passer, c'est ça?
Oui, absolument.
Oui.
Par rapport à nos thèmes de travail, il peut s'agir du thème du pardon, du thème de l'humilité, du pouvoir, de la spoliation. venons tous ensemble œuvrer pour pouvoir essayer de dépasser ces épreuves.
Mais alors le problème qui se pose, c'est les autres personnes, elles font partie de notre système à nous, ou est-ce que c'est un karma collectif? Enfin, on ne sait pas.
C'est pas forcément un karma collectif, mais nous pouvons suivre ce que l'on appelle les égrégores. Comme vous le savez, les égrégores, ce sont vraiment des courants d'énergie semblables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre un courant d'énergie particulier à notre mission de vie, à ce que nous sommes venus travailler. On peut tous se rassembler sur un même égrégore pour pouvoir travailler collectivement ce que l'âme a de toute façon à travailler à un point de vue individuel et unique, ça c'est certain.
Mais est-ce qu'on ne peut pas... Enfin, moi, c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé, parce que moi-même, je suis dans... j'appartiens un peu au champ de l'astrologie karmique. Mm-hmm. Enfin, pas tout à fait comme on le fait, mais enfin, disons que c'est un peu dans cette direction que je vais. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a... d'abord, premièrement, quels sont... Je vais poser une question qui va me surprendre, mais il n'y a pas tant d'épreuves que ça. On peut les classer, les épreuves. Il y en a pas... Elles se réduisent à des catégories assez peu nombreuses. Quelles sont, à votre avis, les épreuves majeures auxquelles nous sommes confrontés dans notre existence?
Les épreuves liées à l'autre.
Les tentations, les épreuves. Ouais. Quelles sont les catégories de problématiques que l'on peut avoir à affronter? Elles sont peut-être pas si nombreuses que cela.
Parce que vous les regroupez par rapport à des sous-catégories, peut-être.
Oui.
Les pertes, les deuils, le pouvoir par rapport à l'amour. Voilà, c'est tout ce qui peut entraver finalement la liberté de l'âme.
Oui.
Céder, oui, comme vous dites, aux tentations, de l'orgueil, du pouvoir, de l'argent. Mais il y a aussi les libérations, libération par rapport à une caste sociale,
oui.
Libération par rapport à une croyance, à une obédience, par rapport à une origine, une culture. L'âme doit aussi pouvoir se libérer de ses chaînons, tant au point de vue généalogique, culturel, que social, etc. etc. C'est aussi savoir se libérer, s'émanciper. Il y a aussi savoir dépasser des données et dépasser un univers familial pour pouvoir être un pionnier en la matière.
Oui.
Il y a aussi des âmes que l'on place dans une généalogie pour pouvoir libérer la généalogie de ses freins, de ses erreurs. Il y a des âmes qui choisissent délibérément d'être de cela. Le seul érudit de la famille, par exemple, ou bien le seul religieux de la famille, ou la seule médium de la famille, par exemple. Voilà, il y a des âmes qui choisissent aussi d'essayer de sauver une lignée, directement une lignée, voire aussi des âmes qui viennent pour éveiller les consciences, pour essayer de leur apporter un éveil, qu'il soit spirituel, qu'il soit psychologique, ou un éveil d'amour aussi. Voilà, il y a beaucoup de... Si on doit les situer dans des catégories, je ne saurais faire, mais en tout cas, la libération, le dépassement de soi et l'acceptation, ça peut être déjà trois grandes catégories.
Oui, c'est bien balisé, effectivement, oui. Mais on peut aussi se penser... Enfin, moi, j'aurais une approche plutôt cyclologique, c'est-à-dire je pense que toute l'humanité est collectivement confrontée à certaines époques, à certains types d'épreuves, chacun devant affronter ses épreuves avec ses moyens à lui, mais l'épreuve étant fondamentalement la même, au même moment. Et donc effectivement, il y a des moments, par exemple, où l'épreuve, c'est la rencontre avec le passé.
Oui.
C'est-à-dire que l'on est les fantômes du passé, des gens qui réapparaissent, des gens qui reviennent, des nostalgies, et est-ce que...
Très souvent, le passé est lié au pardon, au thème du pardon.
Oui. Et quelle place je dois donner dans mon présent au passé? Est-ce que l'épreuve, c'est je suis dans une situation aujourd'hui et il y a des choses qui se présentent d'autrefois, quelle place je dois leur donner? Ou inversement, j'ai la possibilité de sortir de ce présent pour aller vers d'autres choses, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier le présent pour... En fait, non, c'est toujours le présent qui est un petit peu l'enjeu, confronté à des tentations d'en sortir vers l'arrière ou vers le haut, vers l'avant.
Oui,
voilà, c'est une théorie que je vous suggère comme ça.
C'est très sartrien ce que vous me dites là, hein, quand même. Parce que si on se réfère à l'être le néant, et si on suit Sartre, on pose chaque jour le pied sur une nouvelle pierre, libre de tout passé, libre de tout futur, et on peut recomposer en une minute, une heure, heure ou une année, toute une nouveauté de choses sans prendre en compte ni le passé ni le présent. Si on suit Sartre, on se recrée à chaque minute, à chaque seconde, oui. à chaque instant,
oui.
En faisant fi de ce qui était oui. avant, de ce qui sera, de ce qui oui. sera demain. Ce que vous m'exposez là me fait un peu penser.
Et à ce sujet, un autre sujet qui m'est cher, c'est la question des hommes et des femmes. Alors, est-ce qu'elles ont le même destin? Est-ce qu'elles ont la même raison d'être? Est-ce qu'elles ont la même mission sur Terre?
Je ne peux pas les classifier ainsi. Une âme est asexuée.
Oui.
Qu'elle choisisse de s'incarner dans un corps féminin ou dans un corps masculin ne fait que concourir à aider à sa mission. C'est-à-dire que quand vous, évidemment, quand vous avez un rôle de libération, d'asservissement et de prise de liberté, qu'est-ce qu'on va faire avec votre guide? On va évidemment vous incarner dans un corps féminin qui, je vous le rappelle, en 2014, n'a encore pas les mêmes droits et les mêmes libertés que les hommes ici-bas. Donc ça sera sans doute utile, entre guillemets, à pouvoir d'autant plus mettre en place le process de libération et d'émancipation. Voilà, je pense que l'incarnation dans un sexe en particulier n'est que le peaufinage d'une mission globale à accomplir. Voilà. Si vous avez vertu à arrêter de vous battre sans arrêt, à arrêter d'être dans la force, on va peut-être vous mettre dans un corps masculin très viril pour vous dire « Et maintenant, que vas-tu faire ? Est-ce que tu vas cesser définitivement de te servir toujours de ces attributs de force et de virilité et en faire enfin quelque chose d'autre ?» Ça peut être aussi une des parties du scénario incarnation.
Oui, enfin, je me permettrai quand même de faire une petite réserve parce que les femmes ne se limitent pas à la condition féminine, à leur statut dans la société. Elles ont peut-être aussi des vertus particulières ou des modes de fonctionnement particuliers. Non, je veux dire, en dehors de la question de savoir si elles sont exploitées, brimées, oppressées, etc.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que si pendant plusieurs incarnations, vous avez été un homme viril ou dans le pouvoir, et que vous avez sans cesse échoué par rapport à ça, hein, la question n'est pas de savoir si vous avez eu du pouvoir, si vous étiez un aztèque, un roi, un empereur, comme je le dis très souvent en conférence, on s'en fiche éperdument, ça va flatter notre ego 5 minutes de savoir qu'on a été Napoléon dans une autre vie, mais dans cette incarnation-là, on ne va rien en faire du tout. En revanche, dans une succession de vies avec des corps masculins, et tout d'un coup, se retrouver dans un corps féminin, et devoir y déployer de la féminité, de la douceur envers les autres, et changer radicalement sa façon de percevoir la vie et les autres, là, c'est une nouvelle mission pour une âme. C'est là où c'est intéressant, justement. Et je rencontre beaucoup de femmes qui, je sens de prime abord, sont embêtées avec leur enveloppe féminine.
Ouais.
Vous voyez, qui sont au fond d'elles absolument masculines. On sent très fort les précédentes incarnations dans des corps d'hommes, de dirigeants, de pouvoir, et qui sont un peu complètement décontenancées ou déboussolées, parce que dans ce corps féminin, elles ont du mal à trouver leur repère, elles ont du mal à savoir comment distribuer la communication et la douceur autour d'elles.
Est-ce que ça signifie que vous êtes capable, en mesure de capter des vies antérieures?
Oui, très souvent. Et ça n'est pas quelque chose que je demande, hein. Il peut m'arriver de ne pas du tout le percevoir chez un consultant, ou très fortement, tout d'un coup, l'image va se superposer à mon consultant, et je vais lui en faire part, bien évidemment, si ça fait sens dans ce qu'il est venu chercher sur l'instant.
Oui.
Voilà. Ce qui est très facile à percevoir, ce sont tous les métiers ou les sacerdoces, les anciens militaires, les sœurs, les curés, très vite vous retrouvez des superpositions d'images très fortes par rapport à ce genre d'incarnation précédente.
Alors pour revenir à la question de la demande de la clientèle, si on peut parler comme cela, quel genre d'informations vous pouvez divulguer à la personne qui vient vous voir sur son futur immédiat peut-être, ou plutôt futur plus lointain?
Tout dépend de l'information.
Est-ce que vous allez parler de l'enjeu de son incarnation, ou simplement de ce qu'il attend dans les prochaines semaines?
Mais j'essaye en général de répondre à leurs attentes. Je leur demande pourquoi ils viennent dans un premier temps, étant donné que l'on me connaît autant pour mon contact médiumnique avec les défunts que pour les éclairages de vie. Je demande déjà dans quel domaine j'ai le droit d'aller ou pas. Je pense qu'il faut respecter aussi les gens. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes tout de suite à pousser la porte de l'après et de l'au-delà. Je respecte ça, c'est-à-dire que j'ai eu des consultants qui sont venus pendant pendant un an, deux ans me voir simplement pour des éclairages de vie, et puis qui à un moment donné me disent ça y est, je me sens prête à communiquer avec mon père, je pense qu'on peut aujourd'hui faire une séance autour de lui et médiumnique, j'ai des questions à poser, j'attends ce moment. Parfois je dois donner des informations, comme je vous disais, différentes de ce pourquoi mon consultant est venu, parce que ça fait sens au moment où on se rencontre.
Donc vous basculez un petit peu sur ces deux créneaux. Parfois on passe du médiumnique à la voyance, parfois la voyance au spiritisme.
Oui, tout à fait. Cela dit, ma façon de fonctionner et de canaliser reste la même. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément préciser à mon consultant quel guide me parle, qui me parle, mais je vais recevoir les informations de la même façon. Il y a des gens pour qui c'est très important de savoir avec qui je suis en contact et comment je perçois les choses. D'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui veulent simplement recevoir les informations qu'ils sont venus chercher.
Mais en vous écoutant, on a l'impression que vous les voyez plusieurs fois,
vos clients. Une à deux fois par an ?
Oui, parce que vous dites qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois et puis qui...
Vous savez, quand on est confronté à un deuil pour la première fois, il peut m'arriver de rencontrer mes consultants un peu plus qu'une à deux fois par mois parce qu'ils ont besoin de messages et ils ont besoin d'être accompagnés.
Plus d'une ou deux fois par mois ou par an ?
Par an. Oui, par an. Ah oui, non, hors de question de rencontrer les gens tous les 15 jours. Déjà, je ne sais pas ce que j'aurais à leur raconter de plus. Parce qu'il ne faut jamais créer de dépendance ou d'addiction quelconque. Nous sommes là pour éclairer leur vie, pas pour être un bâton de pèlerin ou une béquille. C'est pas du tout le but de cette mission, pas du tout.
Alors vous-même, vous n'avez pas eu dans votre enfance de modèles de personnes qui avaient des pouvoirs ou des pratiques divinatoires? Pas de grand-mère, pas de... Donc ça s'est éveillé comme ça, sans...
Oui, c'est ça.
Sauf que ça... Oui.
C'est des grands moments de solitude.
Oui.
Du coup, parce que j'arrivais à percevoir les entités, j'entendais beaucoup de choses. C'était un matériau dont je ne savais pas trop quoi faire. Les livres ont été vraiment un écueil pour moi et vraiment un moyen d'essayer de chercher, de comprendre, de savoir. J'ai pas trouvé une réponse à ce moment-là, mais j'ai cherché. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé en moi très longtemps, sans me rendre.
Donc, par exemple, quelqu'un peut venir vous voir en disant, voilà, j'ai un problème affectif, je suis dans une crise de relation avec mon partenaire, est-ce que ça va s'arranger, est-ce que c'est comme ça qu'il faut que les gens parlent? Alors là, effectivement, vous dites vous-même, normalement, le client n'a pas à poser la question. Bon, on n'a pas à poser la question, donc c'est à vous d'en parler d'emblée.
Oui, tout à fait.
De dire, sur ce point-là, je vois que vous reprenez, ou je vois que vous signez quelque chose, je ne sais pas.
Oui,
que...
parfois il m'arrive aussi de dire que je sens que la personne est très seule et est quasiment célibataire au moment où je la rencontre, et elle va me dire qu'elle est encore en couple et que tout va mal. C'est-à-dire que parfois, je peux malheureusement anticiper les choses en leur donnant déjà l'énergie propre à ce qui, voilà, à leur venue et sa foi. Et j'ai malheureusement répondu sans m'en apercevoir à déjà un de leurs grands questionnements. Et ça leur fait beaucoup de bien de recevoir les informations sans qu'ils n'aient eu le temps d'aborder les questions. Parce que je ne suis pas là et je vous dis qui veut l'entendre, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, voilà. Ce que je dois vous dire, tout simplement.
Oui. Et donc effectivement, comme je disais, le problème du temps se pose, c'est-à-dire que on ne sait pas ce que vous annoncez, vous ne pouvez pas le situer forcément dans le temps.
Il y a des grands domaines qui sont plus faciles que les autres. Le domaine professionnel, le domaine de santé, le domaine immobilier, les achats, ça ce sont des choses qu'on peut graduellement, très facilement situer dans le temps.
Ah oui.
Trouver un travail, acheter une maison, déménager, changer de région, ça spatialement et temporairement c'est très facile.
Est-ce que vous avez des critères comme ça qui me permettent de savoir si ça sera en hiver, en été?
Oui, parfois on peut m'annoncer un tournant, un mois, une saison, quelque chose de particulier. Le domaine dans lequel c'est le plus fluctuant, c'est bien l'amour. C'est bien les relations affectives. Il m'arrive de dire à mes consultants, voilà, je sais très bien que vous ne resterez pas avec cet homme, avec cette femme, mais je sais et je sens que vous avez besoin encore, malheureusement, de vivre quelques épreuves avec lui ou avec voilà. elle pour pouvoir y mettre un terme. Oui. Je sais, au moment où vous venez me voir, que même si vous avez des doutes et que vous êtes dans la souffrance,
il faut en passer par là.
Et souvent, je leur pose cette question qui, pour moi, permet de les situer dans le temps. Je leur pose la question suivante, et s'ils savent y répondre dans l'instant, ils auront une notion de la temporalité à ce moment-là. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous dire « Non, maintenant c'est terminé » ou « Oui, je continue avec cet homme ». Et on s'aperçoit à travers cette réponse que l'être humain est tout de même très masochiste et qu'il est prêt à aller malheureusement très très loin dans sa preuve ultime de décision. Voilà.
Oui. Mais c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure au niveau du présent. Le présent, il faut le vivre pleinement.
Mais bien sûr.
Il ne faut pas dire, voilà, de toute façon, ça ne va peut-être pas durer, donc ce n'est pas la peine de continuer.
Moi, je dis toujours, vous avez encore des choses à vivre avec cet homme ou avec cette femme. Vivez-les. Je ne pense pas qu'il y aura une finalité. Voilà, c'est un homme du bout du chemin, d'un bout de chemin, mais pas du bout du chemin. Mmh. Mais vivez, il fait partie de votre incarnation, il a des choses à apprendre, on l'a mis sur votre chemin pour que vous puissiez peut-être même rencontrer la personne suivante, ou peut-être apprendre beaucoup plus sur vous-même et vous transformer par rapport à la prochaine.
À vous relation. Préparer.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr. Il n'est pas anodin, on ne met pas dans sur notre route de façon anodine un homme ou une femme, bien sûr.
Donc il y a des cas où il n'est pas conseillé d'interrompre une situation parce que, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a des mirages un petit peu...
Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il y a des consultants qui vont venir me voir en disant « ça y est, c'est décidé, je sais, je vais le quitter, il me trompe, oui c'est sûr ». Et je sais très bien, en fermant la porte de mon cabinet, qu'ils ne sont pas prêts, que ce n'est pas encore le moment. Même s'ils ont, en termes de raison, fait ce constat-là, l'émotion est encore très forte et ils ont encore des choses à vivre ensemble.
Oui, ça me paraît une bonne... une appréciation très,
très,
très judicieuse. Non, non, mais.
Un chemin de vie qui n'est
bah
pas.
Bah oui, tant qu'à faire, autant, effectivement.
Parfois je le déplore, parfois je vois oui. la finalité. Je sais malheureusement ce que mes consultants vont devoir supporter dans l'offense, dans l'humiliation, dans la violence. Parfois, malheureusement, j'ai peur de ça. Je leur dis attention, est-ce qu'il va falloir en arriver jusque-là? Mais nous n'avons pas à guider et à dicter la conduite.
Non, ça montre bien quand même. Que le niveau de conscience, de spiritualité du voyant est important. Parce que s'il projette sur son client ses problématiques à lui, c'est pas très bon. Hein,
déjà, éthiquement parlant, c'est déjà pas bon du tout. Et puis parce que nous ne sommes pas là pour nous faire une autothérapie, ou etc. La première des choses est de ne pas juger. Nous ne sommes pas là pour juger la vie des gens et leur dire « faut arrêter, faut continuer, c'est bien, c'est mal ». Nous sommes juste là pour leur dire « attention, là, ce n'est pas un chemin qui va être terrain. Là, vous risquez de vous perdre par rapport à vos attentes. Nous, on est là pour mettre des petites balises sur la route aux gens ensuite de prendre conscience dans leur seuil de tolérance à eux, qui est très différent de tout un chacun. Chez certains, un mot de trop va être l'offense ultime. Malheureusement, chez certaines autres personnes, il va falloir une gifle, il va falloir un coup, il va falloir quelque chose de beaucoup plus poussé. Et ça appartient à chacun d'eux.
Oui, effectivement, ça me paraît une bonne façon de voir les choses. Nous vivons au présent, mais nous sommes confrontés effectivement à des tentations qui viennent nous perturber, qui viennent perturber notre présent, des souvenirs, des attentes.
Puis nous avons un package de passé, c'est-à-dire que nous sommes issus d'une généalogie, d'une famille, d'une énergie familiale qui fait que nous avons déjà des prédispositions et des programmations profondes et inconscientes que nous sommes aussi essayés de dépasser.
Je crois que vous avez d'ailleurs un livre là-dessus.
Exactement.
Sur la généalogie.
Oui, c'est très intéressant, bien sûr. Il y a notre propre parcours et encore une fois l'incarnation que nous avons choisie, c'est-à-dire nous libérer d'une famille, de problématiques familiales, de secrets de famille, etc.
Écoutez, je vous remercie.
J'ai retrouvé, c'est Edgar Allan Poe. Voilà, je voudrais savoir comment il est parti.
Traduit par Baudelaire, d'ailleurs.
Ben, évidemment, tout à fait.
Vous vouliez savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ça s'est terminé.
Comment il est réellement décédé.
Oui.
Parce que les raisons de sa mort restent très obscures. Mais je vais aller fouiller ce point.
Mais vous avez tout à fait raison, ce serait une très bonne piste de recherche. Mais à un moment donné, il faudrait donc aller effectivement fouiller dans les annales akashiques de Poe.
Oui. Je vais aller fouiller là-haut dans la grande bibliothèque, si on m'y autorise, je le ferai avec grand plaisir.
Oui. Ben, ça me paraît tout à fait un projet faisable. Alors soit effectivement, en le faisant vous-même, en mettant vous-même dans un état médiumnique qui correspond à cela, soit, ce qui est aussi possible, en passant par un médium, et vous, à ce moment-là, vous ne seriez pas le médium, mais vous seriez la personne qui...
Vous savez bien qu'on écrit avec ses tripes, et on écrit ce en quoi on a la foi. J'ai toujours écrit, et j'ai toujours témoigné de ce que j'ai ressenti et vécu.
Voilà.
C'est pour ça
vous avez cette chance,
oui. C'est une expérience intérieure que je me dois de vivre. Si je l'ai vécu de l'intérieur, je serais mieux à même d'en témoigner, d'en écrire, etc. C'est tellement une expérience intimiste et personnelle, la médiumnité, qu'elle est difficilement dissible. C'est là où c'est très frustrant quand on a enseigné et quand on aime les lettres et les mots. C'est très difficile de témoigner de cette...
Néanmoins, moi-même, qui ne suis pas médium, enfin pas, c'est pas comme vous l'êtes en tout cas, je travaille avec des médiums et je leur demande justement de me mettre en contact avec X ou Y et ça me paraît assez plausible, même si je n'ai pas l'expérience immédiate de la chose, ce que le médium me dit, ce qu'il me dit à travers ce médium me paraît pertinent au vu de ce que je sais de mon domaine, du dossier.
Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous ne choisissons pas nos défunts, c'est eux qui nous choisissent. Hein. On canalise ce que les entités veulent bien nous donner. C'est-à-dire que demain, peut-être avec tout mon cœur et toute mon âme, j'aurais envie d'aller voir Charles Baudelaire et voir ce qu'il a à me dire. Peut-être que je ne suis pas le bon support ou la bonne énergie pour cela.
Voilà.
Il faut avoir l'humilité et la simplicité de dire, eh bien peut-être que tiens, je vais pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça qu'il y a des médiums très différents. Nous sommes des humains très différents parce qu'on va percevoir plus ou moins bien telle ou telle entité. Ça aussi, il faut savoir respecter ça. Pas forcer le passage à tout prix, vous voyez ce que je veux dire.
Alors, une dernière question que j'ai effleurée tout à l'heure, mais je n'ai pas répondu. À votre avis, est-ce que vous avez une idée quelconque de ce qui se passe quand on meurt du moment de la mort et de ce qui suit la mort.
Mm-hmm. Est-ce que vous... Je ne peux vous en donner que mon intuition.
Oui, mais ça serait pas mal.
Mon ressenti, ça serait déjà bien. Je pense que nous sommes accueillis par tous ceux qui nous ont aimés, que nous avons aimés, et bien sûr par nos guides aussi, essentiellement. Ceux qui vont nous aider à faire un point, à faire un bilan de notre incarnation. Je parle toujours du grand moment qui me fait un peu peur, moi, c'est de revoir le grand film de notre vie, c'est-à-dire que l'on le revisionne, on se revoit, on voit l'intégralité de sa vie terrestre, et avec l'aide de nos guides, on revient sur les épreuves, qu'elles soient dépassées ou non, et sur ce que nous allons devoir encore travailler, soit directement dans une prochaine incarnation, soit aussi sur un plan plus céleste. Je crois qu'il y a ce grand moment du débriefing qui me fait un peu peur, je vous avoue, pas par rapport au bien ou au mal, hein. j'y mets pas de manichéisme là-dedans, mais de se dire, voilà, est-ce que j'ai su être à la hauteur des attentes de ce que j'étais venue travailler ici.
Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est est-ce que ce que vous me dites, c'est ce qu'on vous a dit? Ou est-ce que vous en avez une expérience réelle?
C'est ce que les défunts viennent m'en raconter.
D'accord, c'est ça.
Voilà, ce que je vous dis là, c'est ce que les défunts viennent m'en raconter. Je les vois se revisionner dans la vie, je les vois comprendre leurs erreurs, ils me les expliquent.
Vous n'avez jamais vécu une NDE, comme on dit?
Non, je n'ai pas vécu de NDE. J'ai fait quelques sorties astrales et quelques visites ici-haut, mais je n'ai pas fait de NDE. J'ai toujours l'impression en tant que médium de regarder, vous savez, à travers la serrure comme une petite souris, et on me laisse entrevoir ce qu'on veut bien me laisser entrevoir du plan lumineux. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, je crois très fort aux deux questions qu'on nous pose quand on arrive là-haut. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela? Et ça...
Qu'as-tu fait pour cela? Pour être aimé?
Pour aimer.
Ah oui, c'est vraiment un enjeu important.
J'essaye d'en faire une devise quotidienne. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela?
Mais aimer dans un sens très large, enfin.
Bien sûr.
Aimer, c'est-à-dire.
Aimer de façon inconditionnelle, dispenser l'amour autour de soi, voilà. Ou le recevoir, ou le vivre, faire tout en œuvre pour que notre vie ait été jalonnée d'amour. Ça peut être l'amour pour un homme, une femme, un enfant, que l'on reçoit, la passion qu'on emmène dans ce que l'on fait. Je crois que ça, c'est l'essentiel de ce qu'il faut garder.